excentrique.
Ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc.
J'espère que la route va vite tourner.
RMC Football Show.
Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
D'être avec vous, soyez les bienvenus dans l'After. On est ensemble jusqu'à minuit, deux heures de bonheur avec au programme les avis tranchés de Jonathan Macardy et de Ludovic Obraniak. On sera également avec les drôles de dames à partir de 23h. Beaucoup de grosses affiches à l'étranger dans le samedi demain. On vous demandera quel match, quelles deux affiches vous voudrez suivre. On vous les donnera dans le détail dans quelques instants. Mais avant cela, on va retourner du côté de Sochaux puisque ce soir, Nancy en Ligue 2 s'est imposé 4-0 à Bonal. Jordan Olivier est justement au stade Bonal. Salut Jordan.
Salut Nico, salut à tous.
Alors l'ambiance est très tendue après cette défaite 4-0 de Sochaux à domicile face à Nancy.
Ah, c'est un peu chaud, c'est même très chaud, notamment dans les tribunes où tu l'as dit, Sochaux s'est incliné ce soir face à Nancy, 4-0. Coup de sifflet final, Omar Daf, l'entraîneur sochalien, a réuni ses troupes au milieu du terrain. Il y a déjà à ce moment-là un supporter de Sochaux qui s'est introduit sur le terrain, qui a vite été récupéré par un des stewards. Il y a quelques instants, des supporters de la tribune nord de Sochaux ont fait tout le tour du stade par la tribune pour aller au contact des supporters nancéens dans leur parkage, en tout cas au niveau des barrières. Ça s'est invectivé, ça s'est mis quelques coups. Il y a bien évidemment cette barrière entre les supporters pour empêcher que cela s'envenime. Et voilà, il y a eu un petit mouvement de foule. Ça semble s'être calmé pour le moment et ça chambre aussi du côté des supporters nancéens qui ont scandé à la fin du match. On est chez nous, on est chez nous. Pour l'instant, il semblerait que tout soit rentré dans l'ordre. Mais c'est vrai que la fin de match était assez houleuse ici au Stade Bonal.
Merci beaucoup Jordan, s'il y a quoi que ce soit, t'hésites pas, t'interviens, merci beaucoup, bon retour à toi. Je vous donne les résultats de cette 27e journée de Ligue 2, victoire 4-0 donc à Sochaux ce soir, victoire 2-0 de Grenoble face au Red Star, Valenciennes a cartonné également 4-0 face à Ajaccio, Auxerre s'est incliné à domicile 2-0 face à 3, 2-2 entre Châteauroux et Brest, 0-0 entre Niort et Béziers, et puis clairement est allé gagner 3-0 sur la pelouse du Gazélec à Ajaccio. Au classement, on a le Metz qui est leader avec 56 points, Brest qui est deuxième avec 54 points, Lorient troisième avec 49 points et un match en moins, Lens qui est quatrième avec 45 points et un match en moins également, on a le PFC cinquième avec 43 points, Troyes qui est sixième avec 42 points, et puis en bas de tableau, ça commence à bouger là aussi, le Red Star est dernier avec 21 points, Béziers avant-dernier avec 22 points, Sochaux est barragiste 18e avec 25 points, Nancy est maintenant 17e et donc pour l'instant sauvé avec 26 points, et on a le Gazélec qui est 16e avec 29 points. Je vous ai pas salué. Je vous ai pas salué les mecs. Bonsoir Jonathan Macardy, bonsoir Ludovic Obraniak.
Salut mon Nico.
Salut les gars.
Salut à tous.
Ça va les gars?
Ça va bien.
Oui. Bonjour.
Faut demander à Jonathan.
Pourquoi?
Je sais pas, regarde, il a l'air d'être...
J'ai été bien maquillé.
T'es pas, très bien. T'es pas pareil que d'habitude.
Ouais, t'as fait des... Toi, t'as voulu jouer à la bagarre.
Bah, j'aime bien.
Tu t'es pris pour McGregor.
Écoute, bah... Faut bien s'entraîner, non? S'entraîner, tu vois.
Donc tous ceux qui rêvaient de t'en coller une ont été exaucés.
Si c'est dans les règles de l'art, dans un ring avec des gants et on se tape les gants, y a pas de souci.
Mais dis pas que c'est l'ami Dilrami là, le cuistot là.
Oh non.
Non, c'est pas lui quand même. Tu peux pas me faire ça quand même.
C'est un gentil garçon en plus.
Bon, j'espère.
Gentil garçon.
Tiens, également, on vous rappelle que mercredi, il y a le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Cette semaine, RMC vous offre vos places pour la Ligue des Champions et pour aller soutenir le PSG au Parc des Princes. Ce sera mercredi 6 mars face à United pour remporter vos places. Rien de plus simple. Vous restez à l'écoute d'RMC et dès que vous entendez ce signal sonore, vous envoyez foot au 7-32-16. Foot, F-O-O-T.
Ça va passer qu'une seule fois, hein, ce truc.
7-32-16. Tu veux le remettre le truc?
Non, c'est
vas-y,
bon.
Toto.
Non, c'est... Merci Daniel. Tu sais que Daniel, ça lui fait mal de le mettre.
Pourquoi, il est marseillais lui aussi?
Daniel...
Mais non, il aime bien le PSG.
Daniel, tu rigoles.
Il me pourrit les oreilles.
On lui fait un bisou.
Il est mazo. Visiblement,
bravo.
Il est un peu mazo.
C'est bien Daniel.
Ah oui, il y a également des places à gagner ce week-end pour Rennes Arsenal. Voilà.
Il n'y a pas un truc là?
Ce sera à partir des grandes gueules du sport. Non, ce sera à partir de ce week-end. Les grandes gueules du sport, on vous fera gagner des places pour aller voir
le
8e de finale de l'Europa League entre Rennes et Arsenal. Il y aura des places à gagner toute la journée également sur
les antennes
RMC.
Ce sera quoi le son? Galette saucisse ou un orgasme de Jérôme Thomas?
Oh bravo! Ah bah bravo! Ce sera l'ambiance du Roazhon Park où il y a une très bonne ambiance en ce moment.
D'accord.
On va débuter cet after par les avis tranchés. On va commencer par l'avis de Ludo Obraniak.
Allez.
On y va?
Eh ben le jingle,
on a pas le jingle de Ludo?
Pas de jingle là.
J'étais surpris, bon. Mais ils nous ont pas sponsorisé en chichon encore. Hein.
C'est quoi ça? C'était quoi ce truc?
Je sais pas, il arrive à ressortir des trucs.
Ça m'étonne pas de toi
Jérôme,
d'ailleurs. Non, ouais,
t'as raison, j'ai jamais touché une cigarette de ma vie.
Alors toi, t'as envie d'aborder un sujet, un débat qui divise la France du foot depuis quelques jours. Alors depuis le limogeage de Claude Puel du côté de Leicester, il y a plus d'entraîneurs français dans les quatre grands championnats européens. Et c'est vrai que bah, finalement, c'est un sujet qui fait pas mal parler. Il y a pas mal d'entraîneurs de Ligue 1 d'ailleurs qui ont été interrogés sur ce sujet. On va écouter Rudy Garcia, qui était aujourd'hui en conférence de presse. Il a poussé un petit coup de gueule, Rudy Garcia, le technicien de l'OM qui a pris la défense des entraîneurs français. C'était aujourd'hui. On va l'écouter dans quelques secondes.
On fait un métier difficile et je vois pas pourquoi les entraîneurs français seraient moins bons que les autres. Après, si je peux me permettre de mettre une pierre dans votre jardin, vous avez pas toujours été tendre avec les entraîneurs français. Quand il y a de la qualité, faut le reconnaître. Et ça permettra peut-être aussi de mieux nous vendre à l'extérieur. Si déjà on n'est pas prophète en son pays, c'est un petit peu compliqué. Et je parle pas de mon cas personnel. Je pense à Bruno, à Lyon par exemple, ou des choses comme ça, où il fait un travail formidable. Et c'est incroyable de voir que qu'il peut être sur la sellette par exemple.
Alors tu voulais rebondir toi à ces déclarations, mais pas seulement celle-là d'ailleurs. Ludo, tu voulais lancer un appel aux jeunes entraîneurs français, à ceux de la nouvelle génération, au Julien Stéphan finalement quoi.
Ben oui, puisqu'il est l'illustre exemple. On a beaucoup parlé de la formation des entraîneurs et notamment on a mis en compte l'UNECATEF, la formation des entraîneurs. Enfin, il y a beaucoup de choses qui est venu sur le tapis cette semaine. Mais j'entendais quelqu'un là qui disait qu'il faisait une interview où il mettait Zidane en avant justement pour justement justifier de la bonne santé de la formation des entraîneurs français. Or, je crois pas que Zidane soit l'exemple à mettre en avant, puisque on va dire que on n'est pas sûr. Alors bien sûr, Zidane a fait ses armes en France, il a fait les diplômes, il a passé les diplômes en France, mais on va dire qu'il a plus été influencé par le
football. Il a passé une bonne partie de ses diplômes en Espagne hein, quand
aussi.
Il est entraîné là-bas.
Bon.
Il a fait le CDES surtout à Limoges.
Mais disons que c'est assez fou, il a jamais vanté la qualité de la formation, on n'a jamais entendu ça sortant de sa bouche. Et d'autant plus qu'il est plutôt affilié à l'école espagnole, disons-le franchement. Or, pour moi, Julien Stéphan incarne plus, justement, il arrive sur le devant de la scène. Il est frais. Ouais. Je trouve que voilà, c'est plutôt lui qu'il aurait fallu mettre en avant, premier argument. Et voilà, on se posait beaucoup la question de savoir pourquoi justement ces entraîneurs étaient pas plus s'exportaient pas plus à l'étranger.
Or, dans les grands championnats.
Dans les grands championnats, mais. Bon, j'ai essayé de regarder ce qu'il était possible d'analyser. Pour moi, le barrage, le handicap majeur, c'est la barrière de la langue. On va dire que pour ces jeunes entraîneurs-là, à qui on peut conseiller des choses, essayez d'apprendre au moins l'anglais. Parce que il est clair que aujourd'hui, quand tu vas dans un club européen, on a des groupes aujourd'hui qui sont composés d'Argentins, de Portugais, d'Allemands. Enfin, on se retrouve principalement, même quand j'étais au Werder, raison, ouais. Que tu sois en Allemagne, au PSG. Donc, t'as un entraîneur qui fait l'effort de parler français, mais je suis pas sûr que ça ne parle que français dans le vestiaire. Non. Tu peux te retrouver, disons, globalement, dans les quatre championnats majeurs, on va dire, tu peux te retrouver au niveau de l'anglais. On va dire que la langue universelle, c'est l'anglais.
C'est un problème national hein, en France.
Exactement, c'est un problème qui
on en parlait tout à l'heure,
qui est culturel.
C'est pour ça que d'ailleurs que l'enseignement de l'anglais, il y a des formations qui vont dépendre de la région maintenant pour que les gens justement améliorent le niveau d'anglais.
Je te dis ça parce qu'aujourd'hui, le poids du mot, le poids du verbe est très important dans les messages que tu veux faire passer. Quand tu utilises un traducteur ou que tu as une mauvaise gestion de la langue dans laquelle tu sévis, on l'a vu avec Emery, bon voilà, ça laisse la place à des interprétations, on peut se moquer, ton image en pâtit. Donc voilà, déjà sur ce point-là, je pense qu'il faut une évolution dans l'apprentissage de la langue. Parce que quand je t'ai dit, tu transmets un message à tes joueurs, il y a l'intonation, quand t'as un traducteur avec toi, t'es quand même dépendant. Il retranscrit pas exactement ce que tu veux dire.
Mais
avec
même si tu veux être tête à tête avec un joueur, il y a une tierce personne, c'est un petit peu peut-être gênant.
Après, t'as des mecs, t'as des contre-exemples, hein. Regarde Bielsa, par exemple. Ouais. Bielsa, il parlait exclusivement castillan, il est toujours avec son traducteur. Alors tu me diras, Lille, ça a pas fonctionné, ça marchait dans d'autres clubs.
Pour moi, c'est une gamme d'entraîneurs à part. C'est des entraîneurs vraiment qui ont un aura, qui ont un charisme. J'en mets pas beaucoup dans le même sac. C'est-à-dire que tu peux citer aujourd'hui, Bielsa, Guardiola, Klopp.
Klopp, ouais.
Tuchel peut être dans cette lignée-là. C'est-à-dire qu'il apporte quelque chose de nouveau. Après, moi, ce qui me paraît aussi important, c'est le réseau. Honnêtement, on va pas se mentir. Ce qui me fait penser ça, c'est que quand Bruno Genesio essaye de mettre la pression à Jean-Michel Aulas en ce qui concerne sa prolongation, il prend Pinizavi. Georges Jesus, il est aujourd'hui, il prend Pinizavi comme agent.
Il a signé il y a deux, trois jours réglé.
Pourquoi, à un moment donné, ça a été aussi la mode des entraîneurs portugais? On peut partir du principe que le business, aujourd'hui, c'est le trading, on va dire, le modèle économique qui s'impose globalement dans le monde du football actuel, c'est de prendre des jeunes joueurs et de les revendre plus cher et de prendre des plus-values. Or, dans ce système-là, il y a quelques agents, disons une dizaine d'agents, qui contrôlent le marché de ces top championnats européens, des quatre championnats européens.
Après, les mecs qui prennent, ils ont aussi un certain talent et un savoir-faire,
mais pour moi, ça n'engage que moi.
Ils savent pas se vendre, c'est ça les Français, tu veux dire?
Et puis on a la réputation d'être un peu casse-pied, d'être un peu, on veut se mêler de tout. Aujourd'hui, j'ai l'impression que t'as les entraîneurs portugais sont plus dociles, puisqu'aujourd'hui tous ces agents là, ou directeurs sportifs, ils ont des comptes à rendre, soit des propriétaires, des mécènes, soit des fonds de pension. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire fonctionner le business. Ils ont tout un hangar de joueurs qu'il faut qu'ils mettent en valeur. Et le fait d'avoir un entraîneur que tu contrôles, c'est quand même un vrai avantage. Donc pour moi, ça me paraît aussi, ça me paraît un handicap ces entraîneurs-là, c'est-à-dire qu'ils sont pas affiliés à des agents réputés, ou du moins ils jouent moins le jeu, disons, c'est la réputation qu'ont les entraîneurs français. Après, t'as aussi le fait que t'aies beaucoup de quinquagénaires qui soient sur le marché, donc du coup on est plus à rechercher aujourd'hui des jeunes entraîneurs qui insufflent quelque chose de nouveau.
Il y a juste un truc aussi, parce que c'est intéressant, quand on préparait l'émission et notamment ton avis tranché, c'est vrai qu'on se disait aussi, finalement aujourd'hui, imaginons une place se libère dans un top club des grands championnats européens, quel entraîneur français t'aurais à proposer aujourd'hui à ces clubs-là? C'est la problématique aussi, elle est là. Et nous, tout à l'heure, on y réfléchissait.
Zidane, Deschamps.
T'as Zidane, t'as Deschamps. Blanc, peut-être.
Dans une moindre mesure, oui, Laurent Blanc.
Mais c'est vrai que t'en as pas 50 au final, des blazes à proposer.
Moi, je suis d'accord avec tout ce que Ludo, tu viens de dire, mais je pense que la cause principale, c'est ailleurs. Il y a quelque chose à laquelle on est tous très attachés. On est en France, pays de la démocratie, pays des lumières, c'est l'égalité des chances. Et je pense que dans l'accès au diplôme d'entraîneur, il n'y a pas d'égalité des chances. Déjà, l'accès est très restreint, les places sont limitées. Il y a la prime à l'ancien joueur. Ce qui n'est pas forcément toujours des bonnes idées, genre on a vu ce qui s'est passé avec Thierry Henry ou Patrick Vieira.
C'est un bon argument aussi, c'est-à-dire que dans les autres, notamment au Portugal, ils ouvrent la porte
à des
gens qui n'ont pas forcément fait une carrière au niveau.
Donc déjà, pas d'égalité des chances du point de vue de ton background, d'où tu viens, pas d'égalité des chances, comme tu l'as dit, en termes de coûts. Donc je pense que déjà, il faudrait revoir les conditions d'accès au diplôme d'entraîneur. Ensuite, il y a une autre chose qui me gêne un petit peu, c'est que quand même, quand on regarde en Ligue 1 les entraîneurs, quand il y a un entraîneur qui se fait limoger, c'est un peu de la consanguinité, on reprend toujours plus ou moins les mêmes noms qui reviennent. Alors, on n'est plus où on en était auparavant avec
Ancelotti, il y a quand même une amélioration,
etc. Il y a une sorte de renouvellement, mais ça reste quand même très très fermé comme milieu. Et enfin, moi, ce que je vois, c'est que Julien Stéphan, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt de la frilosité des présidents de club qui ont du mal à faire confiance à la jeunesse. Je pense pas qu'un Nagelsmann, qui est un entraîneur qui est en train de devenir extraordinaire, qui a 31 ans, aurait eu sa chance en Ligue 1. Et là, il y a une espèce de blocage culturel.
Tu parles aussi d'une certaine frilosité, mais tu peux parler aussi des entraîneurs qui, clairement, on est réputé pour avoir un aspect plutôt défensif plutôt qu'offensif.
Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, et je suis d'accord, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à revoir dans la formation que tu offres à tes entraîneurs, parce que moi, je m'étais renseigné pour passer les diplômes, donc déjà, ça coûte une blinde, c'est compliqué, et j'ai pu voir certains cours, en Angleterre, ça n'a rien à voir.
On peut pas tout remettre en question non plus, c'est-à-dire quand tu passes le diplôme d'entraîneur, moi je passe mes diplômes de manager, je vais sûrement passer mes diplômes d'entraîneur.
Mais en fait, à Limoges, c'est pas la.
Non, mais c'est deux choses différentes. Ouais. Mais si tu veux sur le principe, c'est-à-dire que t'as quand même ta personne, on te donne des bases. t'as les bases. Mmh. C'est-à-dire après, il y a ta personnalité qui doit rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire ta vision. C'est-à-dire qu'on te, on te donne, voilà, ici c'est les bases. Tu prends tes bases et après tu les adaptes à toi, ta personnalité, à ta vision.
Il y a un aspect que toi t'évoques pas là, parce que là tu parles par exemple du CDES à Limoges qui te donne des super bases et qui est une très bonne formation en termes de management. Mais il y a aussi l'aspect, j'ai envie de dire, philosophique quasiment dans le football. Et c'est vrai que moi je suis contre les caricatures de dire les entraîneurs français sont comme ça, les Italiens. Je veux dire, t'as des mecs offensifs, défensifs dans tous les pays. Maintenant t'as une telle mondialisation, ça veut plus rien dire. C'est comme de dire les joueurs sud-américains, africains, c'est de la connerie. Il y a des mecs techniques, athlétiques, il y en a partout.
C'est une grosse.
Non mais en revanche, il y a un truc qui est vrai, c'est que aujourd'hui ceux qui décident, parce que la décision elle revient au patron des clubs finalement. Ils misent pas ou ils donnent pas suffisamment la chance à des mecs qui ont peut-être des idées, une philosophie peut-être plus attractive.
Est-ce que vous pensez que Nagelsmann aurait pu obtenir
mais pour plein de raisons qu'a évoqué Ludo. Voilà. Il a pas un passé de joueur, il a pas enfin l'accessibilité au diplôme, etc.
Et je pense que le fait de réserver un aussi grand nombre de places aux anciens joueurs, c'est une connerie. C'est une vraie connerie parce que être ancien joueur ne veut pas forcément dire être bon entraîneur.
Ça c'est clair.
Alors évidemment, il y a des Guardiola, Zidane, c'était des joueurs extraordinaires, ce sont des coachs extraordinaires, mais quand je vois Nagelsmann qui a eu une très brève carrière parce qu'il s'est blessé, il a pas été vraiment joueur professionnel et il fait de l'excellent travail. Marcelo Bielsa, on parlait de lui, petite carrière.
Il a toujours le contre-exemple. Platini a pas été un grand entraîneur.
Exactement.
Jean-Pierre Papin a pas été un grand entraîneur.
Thierry Henry, plus récemment.
Non, mais il est au début. On va lui laisser le bénéfice. Fils du doute. Tiens,
on va accueillir Anthony, les gars, supporters de Bordeaux, qui nous a appelé au 32-16. Salut Anthony.
Ouais, bonsoir monsieur.
Salut
Anthony. Alors c'est vrai qu'Anthony, en ce moment, alors, beaucoup d'entraîneurs français ont été interrogés sur cette question, mais c'est vrai que depuis le départ de Puel, il y a cette fameuse stade du zéro entraîneur français dans les grands championnats européens. Comment tu l'expliques, toi, ça, Anthony?
Mais après, bon, par rapport à tout ce que vous venez de dire, c'est tout à fait juste. Après, je pense qu'il y a aussi un problème de compétitivité. C'est-à-dire qu'en France, on a des coachs, en fait, qui sont inconstants. Alors, comme nos équipes, comme nos effectifs, enfin, dans le sens où finalement, si tu veux te faire aussi repérer par rapport à tes idées, par rapport à ta façon de ton sens tactique, etc., etc., il faut que tu aies une certaine constance dans les résultats. Et si tu regardes un peu la majorité, même, allez, on va prendre un exemple, je sais pas, celui qui est le plus constant, c'est peut-être Lyon. C'est sûrement Lyon, mais si tu regardes le reste, franchement,
plus constant, c'est Lyon.
D'une année sur l'autre.
Quand tu fais le bilan de saison en saison. Mais quand tu fais le bilan intra-saison, c'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué, mais comment à ce moment-là, comment tu veux réussir à te démarquer d'une saison sur l'autre, je te prends Gourvennec qui était chez nous, où il fait du bon boulot à Guingamp, mais qui reste entre nous que Guingamp. Il vient à Bordeaux où ça se passe
très mal.
Franchement, ça se passe sans plus, voire mal. Il repart à Guingamp. Enfin, quelle publicité finalement ça lui fait à lui? Est-ce que tu crois qu'un club étranger va dire ah ouais putain lui il a brillé avec un club qui joue le maintien?
Ah, c'est
après
sûr.
Il s'est un peu craché.
Mais Anthony, quand tu dis c'est un problème de compétitivité, tu veux dire qu'il y en a trop en France, c'est ça? Il y a trop d'incertitudes finalement, à part le PSG,
mais
quoi.
Complètement. Il y a trop d'incertitudes. Il y a pas un coach qui reste constant dans ses idées, enfin après c'est global, c'est tout ce qui est tactique, tout ce qui est je sais pas en fait. Pour faire simple, nos coachs, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un effet de mode. C'est-à-dire que Julien Stéphan, pour l'instant, ça se passe très bien, mais je serais pas étonné que l'année prochaine, ça se crache.
Après...
Gourvennec, ça a fait un effet de mode quand on l'a pris. C'était le futur, à l'époque, c'était le Gourvennec, c'était la fraîcheur, c'était super, mais en fait, on s'aperçoit que c'est.
Mais parce qu'on a rien d'autre à se mettre, d'autre à se mettre sous la dent pour le moment,
c'est
pour
ça qu'on cite un exemple.
Et je pense aussi qu'on oublie une des causes principales, c'est que même si, Marseille a fait une finale l'année dernière, le Paris Saint-Germain est présent souvent dans les derniers instants de la Ligue des Champions, mais c'est que notre championnat n'a pas une très grande crédibilité par rapport aux autres grands championnats.
Oui, mais justement, est-ce que c'est pas dû à ce que dit Anthony? Moi, je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand t'es entraîneur en Ligue 1, tu peux faire troisième la saison d'après, terminer 12e ou 13e. Bordeaux est un peu l'exemple.
Mais je
même
pense
s'ils ont pas toujours été très...
Je pense que finir troisième en France, vu d'Angleterre, vu d'Allemagne, vu d'Espagne, vu des autres grands championnats, ça n'a
pas marrant que t'appelles de Bordeaux, parce que c'est un cas intéressant, Bordeaux. C'est-à-dire qu'ils sont en train de changer d'entraîneur.
D'ailleurs, Paulo Sousa, c'est chaud,
Paulo Sousa. Tu te dis.
Moi, j'aime bien, moi.
C'est bien, moi, je trouve,
Directeur sportif, Hugo Varela. Paulo Sousa, ça colle. puisque ils sont portugais les deux. Paulo Sousa
jouera.
Et Paulo Sousa jouera le jeu de Hugo Varela, c'est-à-dire qu'il y aura des joueurs qui devront jouer et lui viendra pas. Si c'est Claude Puel, ça se passe.
Enfin après il peut le faire avec un mec qui est pas forcément gâche, hein, mais
c'est plus compliqué là, tu trouves
des... Non mais c'est une question de réseau, c'est pas une question de nationalité.
Mais oui, mais si c'est que tu trouves des connivences, c'est-à-dire que Bordeaux est parti dans un système, on va pas se mentir, de trading de joueurs. Mmh. Donc tu as Hugo Varela comme sûr, ça peut être Campos à Monaco, il vaut mieux avoir un entraîneur que tu contrôles pour faire passer les joueurs que tu dois faire passer, plutôt que d'avoir Claude Puel qui veut mettre son nez dans la formation, sur le, il veut avoir son avis sur le recrutement. Lui, il va venir, il va casser les pieds. Donc tu prends pas Claude Puel, tu prends Paulo Sousa parce que ça correspond à ce que tu veux mettre en place.
Anthony, tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, ben globalement voilà, c'est un peu tout ça. Après, vous avez parlé de réseau tout à l'heure. Je pense que dans le foot actuel, il faut aussi savoir s'entourer de mecs sulfureux. C'est bête à dire, mais c'est comme ça que ça se passe. Zahavi, c'est pas le plus.
Oui,
donc je pense qu'à un moment donné, ça fait partie aussi de ça, de savoir s'entourer de gens peut-être pas. Bon, peut-être pas clean, mais qui vont te voilà,
qui vont te donner accès, qui vont être une belle porte d'accès.
Et voilà, ouais. Voilà. Et je pense qu'en France, c'est un peu frileux à ce niveau-là, mais je pense qu'aussi, on a des idées complètement archaïques quand j'entends les consultants et divers journalistes qui se disent journalistes et qui proposent à Bordeaux de prendre René Girard. Mais excusez-moi, alors j'ai rien contre René Girard, il a fait énormément de bien à Bordeaux, il y a pas de souci, mais à un moment donné, il faut évoluer dans les
il faut du neuf.
Après Anthony, juste pour fermer la parenthèse là du côté agent sulfureux, tu sais, c'est pas parce que il y a des mecs qui créent leur réseau et qui font des montages financiers qui sont à la limite du légal mais très souvent dans la légalité. Tu sais, en France, je pense qu'on n'a pas vraiment de leçons à donner à ce niveau-là non plus pour ce qui est du système du business d'une façon globale.
T'en as pas mal, on citait Julien Stéphane tout à l'heure, mais t'en as pas mal. Moi, j'en connais un qui est dans l'ombre pour l'instant d'un entraîneur d'une équipe de Ligue 1 qui fonctionne très bien et qui était pas du tout attendu, mais il a un rôle majeur dans la construction de cette équipe là c'est Stéphane Dumont, qui est l'adjoint de David Guillon à Reims. Je peux vous dire qu'il a un rôle prépondérant et il avait fait du très bon boulot avec les U19 de Lille. Là à Reims, il fait du très bon boulot. T'en as plein comme ça qui sont dans l'ombre pour l'instant, qui sont en carrière ou pas, hein. C'est vrai que Jonathan, et l'accès il est plus difficile pour ceux qui ont pas fait carrière, c'est clairement le cas. Mais on a des talents comme ça qui sont un peu dans l'ombre, et le fait que Julien Stéphane sorte de l'ombre et arrive en pleine lumière, ça va justement peut-être donner des idées.
Ça sera peut-être une mode, ouais, voilà. Une tendance, absolument, ça sera peut-être une tendance, espérons-le.
Merci à Anthony, supporter de Bordeaux, qui nous a appelé au 32-16. On va accueillir Benjamin, qui est entraîneur d'ailleurs, Benjamin, et qui lui aussi nous a appelé, qui est en direct avec nous dans l'after. Salut Benjamin.
Salut à tous.
Salut Benjamin.
Alors t'es entraîneur toi, c'est ça Benjamin?
Ouais, moi tout à fait, je suis entraîneur des U13 à côté de Montpellier, donc je travaille aussi avec Geoffrey Dernis, que vous connaissez très
bien. Bien sûr,
oui. Bah oui.
Voilà, c'est comme mon frère pour dire. Donc moi je voulais parler
Casque à pointe, tu le diras bonjour à Casque à pointe.
Ah bah Débril aussi, c'est un bon frérot à moi que je connais très très bien, c'est plaisir. Et du coup voilà, moi j'ai aimé ce qu'il a dit Ludo sur les entraîneurs. C'est vrai qu'on n'a pas d'entraîneur, on va dire, qui sort du circuit, on va dire amateur. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'expérience forcément professionnelle et qui éclos pas en Ligue 1 ou en Ligue 2. Alors moi je suis confronté à ce problème parce que j'ai passé mon niveau 2 et on m'a expliqué qu'après niveau 3 ça serait super compliqué pour moi. Alors je cherche des solutions mais ça m'est impossible. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez
C'est quoi l'idée? Alors Benjamin, je vais te la donner parce que il y en a des entraîneurs aujourd'hui qui n'ont pas eu des carrières de joueurs professionnels et qui sont en Ligue 1, mais c'est des mecs qui ont fait monter leur club pour la plupart. C'est Pélissier. Alors c'est Mercadal, qui s'est fait repérer quand il était au PFC l'année dernière et que quand est allé chercher.
Ouais, tout à fait.
Voilà. Et c'est vrai que finalement le très peu d'entraîneurs que t'as comme ça, c'est ceux-là. C'est ceux qui ont fait monter leur club de tout en bas jusqu'en haut. Voilà, c'est les quelques contre-exemples. Mais ça rejoint ce que disaient Ludovic et Jonathan. Mais la question de l'accessibilité au diplôme d'entraîneur pour les personnes qui n'ont pas été des joueurs professionnels, c'est vrai que c'est un vrai problème en France.
Citons Jean Lassalle, égalité des chances sur l'intégralité du territoire.
C'est un manque d'ouverture d'esprit, je trouve. Je trouve que c'est un manque d'ouverture d'esprit. Pour la simple raison, c'est pas parce qu'on n'est pas professionnel qu'on n'a pas des bonnes idées. Moi, aujourd'hui, je suis dans un petit club qui s'appelle Bayargues. Ça fait 2 ans qu'on gagne le MHSC et pourtant ils ont plus de vivier que nous. Mais on essaye de proposer quelque chose de différent avec une mentalité différente. C'est vrai que j'ai eu la chance de jouer à un petit niveau à Créteil, donc c'était intéressant. Maurice Belay qui m'aide beaucoup pour les entraînements par exemple, Joe qui me donne beaucoup de conseils, et c'est vrai qu'avec tout ça, comme on dit, un petit réseau, on arrive à faire des choses intéressantes, et pourquoi pas, on pourrait pas monter un peu plus et ouvrir un petit peu, comme disait Ludo, notre œil sur ça et pouvoir trouver un nouveau vivier d'entraîneur.
T'as entièrement raison.
Et pour toi, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on manque aussi d'entraîneurs français au top dans les top championnats.
Non, mais clairement, il y a par exemple une justesse. On demande à par exemple à des joueurs professionnels d'avoir une justesse technique et une grinta. Mais je pense qu'un mec qui a plus d'expérience de vie, hein, attention, je dis bien, ou un vécu hors du foot peut apporter un côté psychologique et un côté gagneur à une équipe qu'un autre entraîneur professionnel qui n'a pas peut-être pas connu ce chemin de vie aurait plus de difficultés à transmettre aussi à des joueurs. Moi, par exemple, moi, pour parler, c'est ce que j'apprends à mes joueurs, c'est jouer en une, deux touches de balle avec une grosse capacité physique pour avoir la lucidité sur à U13, ils jouent à 60 minutes. C'est compliqué de leur faire mettre sur le terrain, mais une fois qu'ils l'ont acquis, on peut gagner n'importe qui. Mais quand je joue contre des mecs du MHSC, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est des joueurs qui sont très très doués, vraiment très très bons techniquement, mais qui ont un manque d'impact, par exemple sur le contact physique, et qui n'ont pas de physique. Donc c'est aussi deux choses complètement différentes et deux choses qu'on prône, comme quand on joue contre des bonnes équipes en tournoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu... on se ferme un petit peu la porte à peut-être des personnes qui pourraient apporter beaucoup plus sur un terrain, quoi.
Merci en tout cas, Benjamin, pour ton avis et tes indications.
Merci à vous et belle saison à Joe. Ouais, merci beaucoup.
Merci, salut. Bonne ciao, ciao. Salut, Benjamin. Salut, Benjamin. Tiens, les gars, avant de marquer une petite pause, on va aller du côté de Glasgow retrouver Aurélien Tiercien. Il y a le championnat d'Europe indoor, c'est de l'athlétisme. Fin du pentathlon, Aurélien.
Ouais, Nico, salut. Et Solène Ndama qui était quatrième juste avant 800 mètres. Malheureusement, elle a terminé cinquième du 800 mètres. On n'a pas encore les résultats totalement définitifs, mais ça semble très compliqué désormais pour ce qui était la première médaille française de ces championnats d'Europe à Glasgow.
Merci beaucoup, Aurélien. Dans quelques instants, l'avis tranché de Jonathan McCarty qui fait du Paris Saint-Germain son favori cette saison en Ligue des Champions. On vous rappelle d'ailleurs qu'il y a des places à gagner pour aller voir le 8e de finale retour de Champions League. Vous envoyez foot au 7-32-16 dès que vous entendrez le signal sonore avec le cri des supporters du Paris Saint-Germain. L'after revient dans quelques instants avec Jonathan, justement. On t'entendra ça. Et Ludo Bragnac, à tout de suite.
RMC Football Show, l'after foot, Nicolas Villas.
Accompagné de Ludovico Bragnac et de Jonathan McCarty, vous êtes également avec nous sur le hashtag RMC Live, bien sûr, sur l'application Direct Studio. Vous êtes très nombreux à avoir appelé, à avoir réagi sur le hashtag RMC Live au débat à la vie tranchée de Ludo Bragnac qui concerne les entraîneurs français. T'essayais de donner des pistes de réflexion, peut-être des solutions également aux entraîneurs, Ludo. Merci beaucoup.
Je vais avancer le foot français.
J'espère bien. Non, mais je me crois pas au-dessus de la mêlée, mais c'est en analysant un peu les choses, c'est des points qui se dégagent. En tout cas, c'est le plus gros.
Il y a JP qui nous disait, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment insisté là-dessus, même si c'est vrai qu'on en a parlé aussi. Et la qualité des entraîneurs. C'est pas un obstacle, leur philosophie de jeu, défensive et fébrile.
On en a parlé. La frilosité, c'est un point qu'on a évoqué.
Et on bascule maintenant sur la vie tranchée de Jonathan McCarty qui va concerner le Paris Saint-Germain.
Comme dans un couple, quand t'as nana, tu la vois tous les jours, je commence à plus voir quand elle est mal rasée.
Ce soir, il nous avoue, il aime les travaux.
Normal. Alors, ton avis tranché concerne le Paris Saint-Germain, qui, rappelons-le, aura son 8e de finale retour mercredi face à Manchester United. Et toi, tu fais du Paris Saint-Germain le favori de la Champions cette saison.
Le favori, ou du moins un des favoris. Alors, c'est vrai que depuis que les Qataris sont arrivés au Paris Saint-Germain, honnêtement, j'ai jamais vraiment cru que le PSG était en mesure de gagner la Ligue des Champions. J'aime bien regarder, tu vois, quand on arrive au printemps, faire des groupes, tu vois, je pense qu'il y a un groupe qui se détache. Habituellement, c'est Real, Barça, Juventus. Et après, t'as une sorte de deuxième chapeau. Et en général, j'avais toujours tendance à mettre le Paris Saint-Germain, tu vois, dans ce deuxième niveau, dans les outsiders.
Chapeau 2, quoi.
Ouais, voilà, chapeau 2, outsider très sérieux. Mais là, écoute, quand on regarde ce qui se passe, quand on regarde l'état de forme de la concurrence, quand on regarde l'état de forme du Paris Saint-Germain, et ben pour la première fois, j'y crois et je mets vraiment le Paris Saint-Germain dans le premier chapeau. Alors, j'aime bien faire, tu sais, lister, faire des trucs un peu structurés. Donc j'ai trouvé cinq raisons qui font que je pense que le PSG est un des favoris de la
favori,
compétition.
Le favori, t'as mis le favori
dans le chapeau un des favoris. Dans le chapeau un des
favoris. Donc le favori à la victoire finale.
Oui, à la victoire finale.
D'accord. Alors, il n'est pas que dans le chapeau, hein. On est,
Non, s'il est dans le chapeau, hein.
Oui, il est dans le chapeau, mais tu le vois premier du chapeau, hein. C'est le favori du chapeau,
hein. Dans le chapeau, tout se voit. Après, okay. Tu sais, c'est une coupe, hein. C'est un tournoi, donc, il peut se passer plein de choses. Mais bon, alors, les cinq raisons. La première, c'est, on va remonter, en fait, à ce qui s'est passé en septembre. Je pense que pour les phases de poule avec ce groupe de la mort, avec Liverpool et le Napoli, je pense qu'en fait, ça leur a fait du bien parce qu'ils ont pu se tester très tôt dans la saison avec beaucoup d'adversité. Ils s'en sont bien tirés. Je pense que ça les a, tu vois, ça a permis de jauger un petit peu le niveau de l'équipe, ça a permis de faire des ajustements. Et je pense qu'au final, ce groupe qu'on annonçait comme le groupe de la mort, quand on fera le compte à la fin de la saison, quand on fera le bilan, on se rendra compte que ça a eu une importance prépondérante dans la saison du Paris Saint-Germain d'avoir, voilà, bah, l'adversité que le PSG n'a pas l'habitude d'avoir en Ligue 1. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il y a des joueurs qui sont habituellement été bons, mais là, je les trouve plus que bons. Et je les trouve sereins. Et je pense en particulier à la défense. Alors, j'ai jamais été un très grand fan, j'en ai jamais fait de secret de Thiago Silva. Mais Thiago Silva, j'ai jamais dit que c'était un mauvais défenseur, mais j'avais toujours tendance à le trouver un petit peu nerveux. Et justement, tu vois, dans les matchs face au Napoli, face à Liverpool, même face à Manchester, qui n'est pas non plus en foudre de guerre, j'ai trouvé qu'il dégageait une sérénité que j'avais rarement vu, que je lui avais rarement vu dans des matchs comme ça à forte pression.
Le passage à 3.
Aussi. Le passage à 3 aussi, il joue. Mais tu vois, je trouve que un Marquinhos, un Thiago Silva, je les trouve au sommet de leur art, tant dans l'impact physique que dans la justesse technique, que dans leur comportement sur le terrain. Et ça, vraiment, c'est nouveau pour moi. Le troisième point, c'est Thomas Tuchel. Alors, en début de saison, dans les afters de l'été, moi, je disais bon, bah, c'est un super choix, mais pour la Ligue des Champions, va falloir voir sur le moyen terme, parce que voilà, c'est un jeune entraîneur qui vient d'arriver dans un club qui a une autre dimension que les clubs où il évoluait auparavant. Mais on avait oublié quelque chose dans l'équation Thomas Tuchel. Quand il est arrivé, comment on le présentait? Quelles sont les premières anecdotes qu'on avait dit de Thomas Tuchel?
Ah, les embrouilles avec les joueurs, tout ça,
les embrouilles avec les joueurs, le coup de gueule à Dortmund, le fait qu'il ait fait la tournée des Grands Ducs à Paris, la tournée des boîtes, je sais pas si tu l'avais vu sur le Ludo, cette photo, il est de Thomas Tuchel en soirée parisienne juste pour voir avec ses adjoints dans le genre d'endroit où ces joueurs sortaient. Et ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'en fait, on l'avait présenté comme un mec général de guerre, souvent un vrai militaire, mais en fait, le mec, il fait preuve d'une grande flexibilité, d'une grande empathie. On sent qu'il y a un truc qui s'est créé avec les joueurs. Alors, il y en a qui lui disaient que c'était peut-être un petit peu fake. Moi, je trouve pas. Je pense que vraiment, il y a une belle cohésion entre le coach et ses joueurs. Et je pense que ça va jouer. Et c'est pour ça que je pense que même si c'est sa première année au PSG, eh ben, j'y crois. Quatrième raison, c'est une raison qui est extérieure au club et au niveau de jeu proposé, mais c'est quand tu regardes l'état de la concurrence. FC Barcelone, plus ou moins fin de cycle, il y a Messi qui surnage, mais voilà, on va attendre l'année prochaine avec l'arrivée de Frenkie de Jong, mais c'est pas un grand Barça non plus. Real Madrid, c'est pas non plus un très grand Real Madrid, ils sont eux aussi dans une phase de transition post-Cristiano, et je pense que voilà, c'est pas le même Real que les années précédentes. La Juve, qui était pour moi le grand favori de la Ligue des Champions, bah ils sont en passe de se faire éliminer, faut dire ce qui est. Et puis il reste quoi? Il reste qui? Bah c'est le Bayern. Liverpool, ok, mais Liverpool qui est totalement concentré sur le championnat, et il reste effectivement ceux que je vais mettre dans le premier chapeau avec le PSG, Manchester City et l'Atlético Madrid qui est toujours très chiant à jouer. Et enfin, bah le dernier point pour lequel j'y crois, c'est peut-être quelque chose qui est un peu plus abstrait, mais je pense qu'il y a une espèce, c'est un petit peu mystique, mais quand tu regardes en fait les cadres de cette équipe, Thiago Silva, Edinson Cavani, c'est des joueurs qui, voilà, ils sont plus vers la fin de leur histoire au Paris Saint-Germain qu'autre chose. Ça fait un moment qu'ils sont là. Même à Marco Verratti, ça fait un petit bout de temps qu'il est au club, et je pense que on arrive dans une espèce de fin de cycle, et je le dis pas du tout d'une manière péjorative, parce que t'as quand même Neymar et Mbappé qui ont déjà amorcé le prochain cycle du PSG Qatari, mais t'as ces joueurs-là qui sont eux dans un fin de cycle avec le PSG, et je pense que c'est le moment de clore l'histoire d'une très belle manière, et c'est pour ces cinq raisons que je pense que voilà, enfin cette année, je mets le Paris Saint-Germain dans le premier chapeau des favoris pour la compétition, pour toutes ces raisons-là, et en plus de ça, et ben faut dire que le niveau de jeu, c'est quand même vraiment très agréable à regarder.
Alors, supporter du PSG, on vous attend au 32-16, pas que supporter du PSG d'ailleurs, pour revenir sur l'avis de Jonathan. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Ludo?
Bon, à mettre de là à mettre le favori, le PSG favori pour
seul
gagner
favori,
la Ligue,
tu veux dire.
Non, ça c'est compliqué parce que c'est une question de style, tu vois. Bah,
tirage,
PSG Atlético
et tirage aussi.
C'est une question de style.
J'irai pas jusque là. Ouais. Après, est-ce que je suis plus confiant que les autres années? Oui, je le suis clairement.
Tu les mets premier chapeau aussi?
Bah, c'est-à-dire, moi je le mets, je les vois dans le carré. Je les vois passer l'étape qu'ils n'arrivent pas à passer.
Est-ce que tu les mets dans les quatre? favori.
Je pense qu'ils atteindront les demi-finales. J'espère pour eux.
Minimum, ouais.
Mais je pense.
Et pour toi, ce sera réussi, toi, déjà?
Ben, c'est déjà une étape supplémentaire. Si t'arrives en demi-finale, on te demandait de passer cette étape-là.
Non, mais moi, les gars, je vous le dis, comme on est obligé de prendre en compte ce qui s'est passé avant. Mais l'anomalie, ou du moins la progression, enfin, si, objectivement, ce serait une progression. Mais l'anomalie, c'était les années précédentes, finalement. Mais on en revient à ce qu'on disait précédemment. C'était le tirage. Alors même si, bah, l'histoire de la remontada, c'est pas une question, de tirage, mais,
Non, mais tu peux pas parler d'anomalie, Nico. Quand t'arrives à ce niveau-là, cette compétition-là, elle est...
Non, mais quand je dis anomalie, dans le sens, c'est un truc dingue, quoi. C'est-à-dire, c'est ce que je veux dire.
Tu peux pas dire anomalie, parce que quand tu vois ce que Chelsea a fait, quand tu vois ce que Man City essaye de faire, c'est pas si simple que ça.
Mais malgré, je te dis pas que c'est simple. Hein. Je te dis que c'est l'objectif. C'est pas pareil.
Après, c'est l'objectif. Mais si t'arrives déjà, je pense, à arriver dans le qui est dernier carré, ouais. Ça sera déjà...
Après, tu vois, si tu tombes sur l'Atlético au prochain tour, je dis pas que l'Atlético est meilleur que Paris, mais c'est comme en sport de combat, c'est une question
de
style.
Moi, le seul truc qui me fait peur, avec ton avis, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce discours les années précédentes, qu'on est qu'en huitième de finale, que c'est bien parti, mais que si en quart de finale, t'as un tirage pourri et que tu te fais sortir en quart, on dira quoi?
Mais forcément,
tout ce que tu viens de dire sur Tourelle, on dira quoi? Ah bah finalement, non, peut-être qu'il a été trop gentil, on dira l'inverse, quoi.
Honnêtement, moi, je mets dans le dernier, honnêtement, dans le premier, il a changé, cette équipe, elle est plus reconnaissable par rapport à celle qu'on a connue avant. Tu le vois, sa flexibilité humaine, c'est-à-dire qu'il arrive à être le père fouettard quand il faut, il arrive aussi à cajoler, à caresser dans le sens du poil, il le fait à bon escient. On voit aussi l'attitude des joueurs pendant les matchs de Ligue 1, notamment. Exactement, puisque c'est, nous on voit ça tous les week-ends, donc c'est aussi
rare de voir un PSG feignant.
C'est le pressing, fini la négligence, fini.
Il y avait des matchs, tu sais, où tu sentais qu'il les prenait un petit peu à la légère. Et juste parce que je suis d'accord avec ce que tu disais, mais là cette année, il y a quand même beaucoup d'équipes, de grosses équipes qui habituellement sont dans ce premier chapeau, qui sont en fin de cycle. Bayern, Real, Barça. Tu les mets vraiment dans les favoris, et là ils sont dans une sorte de saison de transition, ces trois clubs.
Je sais pas, tu sens qu'il y a, si ça peut être une année, c'est peut-être cette année. Je dis pas qu'ils y arriveront. Je te dis que il y a des éléments qui font penser que le PSG ira peut-être plus loin que les saisons précédentes, et lui, il a quand même changé le cours de l'histoire, quoi, parce que la donne est différente avec lui.
Tiens, j'en profite juste, petite parenthèse également, puisqu'il y a le championnat du monde, championnat d'Europe indoor de pentathlon, Solène Dama qui a décroché la médaille de bronze, que vient nous donner Aurélien Tiersin. On accueille Thomas, supporter du PSG, qui voulait réagir à ton avis tranché. Jonathan, salut Thomas.
Salut Nico, salut
Thomas. Salut Thomas.
Alors qu'est-ce que tu penses de l'avis, toi, de Jonathan, qui dit, bah ça y est, le PSG fait partie, et peut-être le favori, ou du moins l'un des grands favoris de la Champions cette saison?
Alors dans les grandes lignes, je rejoins Jonathan, je rejoins aussi Ludo. Par contre, l'étiquette de favori, je pense que c'est un peu trop gros.
Chapeau,
ne serait-ce que par rapport... Non, mais ne serait-ce que par rapport à l'expérience de certains autres grands clubs, même si tu dis qu'ils sont en deçà de leur niveau type Barça. Mais attention à ces équipes-là et ces joueurs-là aussi qui sont programmés pour être très très forts courant mars, avril, exactement. Donc attention à ces gars-là, attention à une équipe comme l'Atlético qui a l'expérience de la Ligue des Champions et qui a fait une prestation digne de son standing contre la Juventus. Ils vont être très très durs à bouger. Mais je te rejoins, Jonathan, dans le sens où tu dis que Paris peut faire, après sa prestation très aboutie contre Manchester, partie du chapeau 1, on va dire, pour être prétendant.
Tu vois, toi, tu dis peu, tu dis pas qu'ils en font vraiment partie, là? Quand tu regardes le contexte, quand tu regardes les autres?
Barcelone, quand tu mets 4-0 à l'aller, au parc, il y a deux ans, tu fais forte impression et tu envoies aussi un gros message à l'Europe, et tu faisais aussi partie des favoris dans la bouche de beaucoup, beaucoup de consultants et de médias aussi. Je me rappelle très bien.
Et de supporters, du coup, aussi.
Oui, mais donc après c'est la Ligue des Champions, c'est une compétition sur toute l'année. Il faut vraiment répéter les mêmes prestations etc. Mais
ça change. Thomas, on perd. Ça coupe.
Ah, pardon.
Vas-y, c'est bon. Là,
Ouais, je disais, mais ça rejoint ce que vous avez dit, parce qu'il faut être bon sur toute l'année. Et Tourelle a quand même, on va dire, a fait de cette équipe, je sais pas, il y a pas de suffisance comme vous avez dit, et il y a des mecs.
C'est ça la différence avec l'année de la remontada, hein. C'est que là, l'année de la remontada, rappelle-toi, il y avait des matchs où l'équipe elle y était pas vraiment. Et en fin de compte, quand tu regardes l'année de la remontada, la double confrontation contre le Barcelone, c'est leur premier vrai gros match de la saison.
Il y a ce match de Manchester est quand même très important dans le sens où il a une flexibilité tactique durant le match qui lui permet de remporter le match face à son homologue, bon, qui est certes plus jeune, qui débute, mais c'est quand même un sacré coup d'avoir réussi à museler Pogba, à garder ce système. Et puis l'équipe a aussi pris conscience qu'elle pouvait exister sans forcément Neymar, sans Cavani. Alors je te dis pas qu'elle est meilleure, mais ça veut dire que ces joueurs-là,
c'est capable de faire,
et même pour Neymar et Cavani, la fierté de voir ces joueurs pouvoir se mettre au niveau, parce que peut-être qu'inconsciemment, quand t'as toute la responsabilité d'une qualification sur le dos de trois joueurs, ça peut peut-être créer un déséquilibre. Exactement, en termes ouais. de groupe. Là, le groupe a pris confiance. Et quand tu vois l'ambiance qu'il y règne, moi, je peux pas dire que je ne suis pas confiant pour la progression de cette équipe.
Merci à Thomas de nous avoir appelé au 32-16. Tiens, on vous rappelle, que ce soir, en Ligue 2, il y a eu la victoire de Nancy 4-0 à Sochaux. Alors, il y avait des incidents en fin de match, Jordan Olivier, qui nous expliquait qu'il y avait les supporters de Nancy qui étaient attaqués, visés par certains supporters sochaliens. Alors, sachez que tout est rentré dans l'ordre puisque les supporters nancéens sont rentrés en bus, Ils ont pu récupérer, regagner leur bus et rentrer, à la maison.
Ça sert à rien de se mettre sur la gueule, les amis.
C'est bon, ça. Merci en tout cas à toi, Thomas, supporter du PSG. Dans quelques instants, on va vous donner quelques informations qui nous viennent de Flo Germain à Marseille. Il y a des cadres du côté de l'OM qui pourraient ne plus être là la saison prochaine. On vous pose la question.
L'excellent Flo Germain, faut dire.
Oui, le génialissime, voilà. Flo Germain, bien entendu. Lesquels aimeriez-vous garder? Et puis on vous rappelle aussi, vous savez qu'il y a la Coupe du Monde féminine du 7 juin au 7 juillet prochain qui sera à suivre sur RMC, bien entendu. RMC qui soutient l'équipe de France féminine à l'occasion des matchs de préparation pour le Mondial 2019. Cette semaine, on vous offre des places pour France-Uruguay. Ce sera le 4 mars à Tours. Pour remporter vos places et encourager l'équipe de France, vous allez sur le compte Twitter de l'After, @AfterRMC. L'After qui revient juste après ça.
RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Accompagné de Ludovic Obraniak, de Jonathan McCarthy. Vous êtes également sur l'application Direct Studio, sur le hashtag RMC. Il arrive bien entendu, vous nous appelez au 32-16. Vous avez eu les avis tranchés de Ludovic Obraniak, de Jonathan McCarthy. Et bien maintenant, on vous verra un petit dossier olympique de Marseille. Informations qui nous viennent de la Calobière, de Florent Germain. Alors, qui concerne cinq tauliers du vestiaire. Mandanda, Rami, Rolando, Payet et Luis Gustavo. Cinq leaders qui ont connu des jours meilleurs. Ça aurait pu s'appeler ainsi. Alors, l'OM qui cherche un gardien pour la saison prochaine. Aucune négo n'est en cours actuellement concernant une éventuelle prolongation de contrat de Rolando, le contrat qui s'achève cet été d'ailleurs pour Rolando. Rami qui pourrait être tenté par une aventure aux États-Unis. Vous savez qu'il a un lien assez particulier avec les États-Unis puisque madame est américaine. Aucune certitude non plus concernant Gustavo, alors qu'il y a une situation en ce moment un peu moins épanouissante, on va dire, du côté de l'OM, et il intéresse aussi des clubs à l'étranger. Et puis c'est le cas de Payet aussi, qui a eu notamment des touches en Chine. Alors, d'après ce que nous explique Flo Germain, lui il doit bien rester du côté de l'OM, mais il a un dossier aussi qui est très cher, assez coûteux pour les dirigeants de l'OM. S'il y a de nouveau une grosse offre, qu'est-ce qui pourrait en être pour l'avenir de Dimitri Payet? Alors, tous les détails sont en lien sur l'excellent papier de Flo Germain sur rmcsport.fr. À des degrés moindres, leur avenir à Marseille n'est pas certain. Parmi ces quatre de l'OM, sur qui comptez-vous la saison prochaine? C'est la question qu'on vous pose, supporters de l'OM, au 32-16. On vous attend pour y répondre. Toi qui nous a souvent parlé de l'OM cette saison, Jonathan, qu'est-ce que t'en dis, toi, de ces cinq dossiers? Cinq joueurs importants dans le vestiaire.
Alors, on fait au cas par cas ou globalement?
Je sais pas qui t'aimerais garder.
Bon, alors, je pense qu'il y en a juste un, et c'est Luis Gustavo, parce que je pense que même si sa saison a été un petit peu bancale, faut voir qu'il a été encore trimballé à droite, à gauche, défenseur central, milieu, défenseur central quand l'équipe prenait l'eau, mais ça reste un excellent joueur, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il récupère très vite sa place dans l'équipe. Après, sur les quatre autres, Mandanda, on va le mettre à part, c'est une légende du club, c'est le joueur le plus capé de l'Olympique de Marseille, il est pas à son niveau cette saison. Il n'y a pas de problème, mais il restera dans le livre des historiens de l'Olympique de Marseille, donc grand respect, mais il faut penser à sa succession. Il est là depuis un bail.
Et donc tu le gardes?
Puis, je le garde, mais pour passer le flambeau, tu vois. Moi, j'aime
avec
bien l'idée.
Avec le petit Mendy, par exemple.
Bah, c'est un très bon gardien. Après, c'est un peu con parce que il est formé à l'OM, donc tu aurais pu l'avoir. Mais tu vois, à la manière de ce qui s'est passé quand Mandanda prend la place de Cédric Carrasco,
tu crois qu'il est capable, de se mettre dans ce rôle-là?
Je pense et j'espère, parce que j'espère que la fin de l'histoire entre Mandanda et l'OM ne sera pas brutale, et ça sera une belle fin parce qu'il le mérite. Et en tant que quelqu'un qui adore ce club-là, et ben j'aurai toujours une profonde affection pour Sam Mandanda, même si en ce moment c'est vrai qu'il est pas à son niveau. Deuxième cas, c'est Rolando. Rolando, le club a déjà fait dans le social l'année dernière en le prolongeant pour service rendu après sa blessure qui l'a privé de plusieurs mois de compétition. Je pense qu'il peut peut-être rendre 2-3 services, même si j'en doute sur la fin de la saison. Mais on va lui dire merci pour tout parce qu'il aura rendu quand même de beaux services à l'OM. Il a dans une période difficile du club, et puis il va falloir qu'il aille voir ailleurs.
C'est lui qui te met le but de la qualif pour
la finale. Exactement, ça on l'oubliera pas. Et les deux derniers cas.
Rolando Ballon d'Or, je me souviens encore de la une.
Frondor. Et les deux derniers cas, bah, c'est le cas d'Adil Rami. Donc, j'ai pas envie de faire, j'ai pas envie que les gens pensent que je tape que je lui tape dessus ou que je l'aime pas. Bah, c'est pas du tout le cas. Mais merci beaucoup pour ce qu'il a fait la saison dernière, notamment en jouant blessé avec sa blessure et pour sa compagne.
Adil, attention quand même, parce que, certes, la MLS, s'il vend MLS, c'est en DP.
Ouais.
Mais on est bien d'accord. J'ai pas vu beaucoup de défenseurs en défense centrale, excepté je sais plus qui c'est qu'ils avaient pris, c'était pas
Atterri,
non c'était Nesta, je sais pas si à l'impact. Il y avait pas Nesta.
Explique ce qu'est un DP. C'est les mecs qui sont
c'est les
bons
joueurs
contrats
désignés, masse salariale. Ils font pas partie de la masse salariale, c'est des joueurs payés par les.
Mais attends, mais il peut très bien y aller et se faire un kiff aussi, hein. Il peut très bien aller et se dire, moi, j'y vais pour la vie, pour.
Je pense qu'il faudra qu'il accepte.
Bah oui, oui. Mais c'est pas impossible, hein. C'est pas un choix de vie.
Non, mais, puis ça lui irait bien.
Mais après, tu sais, pour Rami et Rolando, mais surtout d'ailleurs, peut-être même plus encore pour Rami, il y a aussi un truc qui est important, c'est les fameux joueurs de vestiaire. Ça joue vachement dans un groupe.
C'est ce que j'allais ajouter. C'est après, en revanche, s'il décide de rester, mais bon, il a quand même un gros.
Les deux sont de
si tu le gardes et que pour encadrer Bouba Kamara et Douye Tchaleta Tsar, pourquoi pas, mais il a un très gros salaire. Et enfin, un dernier cas, c'est Dimitri Payet. Alors Dimitri Payet, je trouvais que c'était une très mauvaise idée de le faire revenir. Il a fait quatre mois exceptionnels l'année dernière, mais t'as coûté une blinde. Sur la masse salariale, il prend beaucoup, et je pense que ça, c'est le péché originel de Jacques-Henri Hérault et de la direction et de Franck McCourt. Et là, tu vas payer un petit peu les pots cassés, parce que pour lui trouver une porte de sortie, ça va être très compliqué. Après, on n'est pas non plus à l'abri qu'il nous ressorte les quatre derniers mois, les mêmes quatre derniers mois que la saison dernière.
Il trouvera une destination.
Qui faciliterait les choses.
Il trouvera une destination exotique, quoi qu'il arrive, je veux dire.
Mais est-ce qu'il a envie? On sait qu'il était revenu à Marseille,
pour
des raisons personnelles.
Je sais pas, vu
parce que madame accepterait d'aller en Chine.
Vu la tournure des événements, honnêtement, ça va dépendre un peu des prochains mois. Mais
lesquels tu garderais, toi, parmi les cinq joueurs cadres dont on parle là, Ludo?
Moi, j'ai serré Luis Gustavo, parce que c'est celui qui incarne le plus c'est celui auquel le maillot il le porte bien, le maillot, tu vois, c'est-à-dire ça colle très bien, il est vaillant, c'est un très bon joueur techniquement. C'est un joueur qui est dans l'esprit tout le temps, c'est un professionnel, les supporters l'adorent. Après, est-ce que tu peux toujours le garder dans ton 11? Est-ce que lui acceptera? Je pense que tu peux adapter ton milieu pour qu'il joue. J'espère pour lui. Mais oui, s'il y en a un que je garderais, ça serait lui.
On va écouter Thierry Rudy Garcia qui s'est exprimé justement sur la place et le statut de ces joueurs cadres dernièrement. C'est vrai que ça marche pas forcément très bien en ce moment pour ces joueurs cadres. Il s'est exprimé sur le sujet aujourd'hui en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM.
J'espère qu'il y ait frustration. Et moi, ce que j'attends, et c'est ce que je vois à l'entraînement, c'est encore plus d'implication, plus de travail, plus de volonté, plus de motivation de la part de ceux qui sont moins dans l'équipe de départ ces derniers temps pour regagner une place. Ça s'appelle la concurrence, et puis ça s'appelle l'émulation. Donc moi, je suis pas mécontent de voir que tout le monde cravache pour prendre une place dans l'équipe, en retrouver une ou la garder. C'est plus intéressant et à l'entraînement et en compétition aussi.
Ouais. Tu vois, tu te posais cette question-là, hein, après le retour de Payet, notamment Jonathan. Là, t'as la réponse. Hein.
Ouais,
il les pique, hein, Rudy Garcia.
Ouais, et puis à Rennes, il a mis exactement la même équipe. Alors, ça n'a pas très bien marché, mais il a eu quand même le courage de rester sur ce qui avait marché auparavant.
Il faut quand même noter que les événements tournent en sa faveur. Hein. S'il n'avait pas eu cette série là de trois matchs,
on est d'accord.
Il aurait été beaucoup plus en difficulté pour pas les réintégrer.
Ouais. Tiens, on va accueillir Renaud, qui est supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. Salut Renaud.
Oui, bonsoir Nicolas et bonsoir à toute l'équipe.
Salut Renaud.
Comment ça va Renaud?
Ouais, ça va pas mal. Ça va.
Qu'est-ce que t'en penses alors de ces 5 cas là du côté de l'OM, ces 5 joueurs cadres?
C'est difficile en fait, parce que
la vie est dure.
On a forcément du respect pour tous les joueurs. Mandanda qui commence à être un peu âgé, 33-34 ans là de mémoire, donc et qui a été extrêmement fidèle avec l'Olympique de Marseille, donc il y a vraiment une belle histoire, et je pense que Marseille a une place particulière dans son cœur. Et puis c'est vrai qu'il y avait eu le petit intermède anglais qui s'était malheureusement pas très très bien passé pour lui, mais c'est vrai que le retour à Marseille ensuite, voilà, on était content de le retrouver. Après, si on met de côté le côté affectif, parce que bon, voilà, Mandanda c'est un joueur formidable. Bon, Rolando, je pense que c'est pas un mauvais gars non plus. Au contraire, Adil Rami, il est extrêmement attachant, et c'est un formidable joueur aussi. Après, je pense que si on met de côté
cet
aspect un petit peu affectif, je pense qu'il faudra quand même que l'année prochaine, cette année, je veux dire, en fin de saison, en juin, on commence un peu, ou déjà un peu avant, mais comme déjà
maintenant, il va falloir avoir un peu plus d'idées, il va falloir avoir un peu d'idées sur le recrutement, un peu plus que
Renaud Ludonico.
Oui.
Vous vous rendez compte en fait que allez, ça fait 2 saisons et demie, c'est ça que McCourt et Hero sont là, mais quand tu regardes l'effectif, quelle est la ligne directrice dans la construction de ton effectif? T'en as aucune. Là cet été, je pense que ça va être un été compliqué. Balotelli, bon bah on sait que c'est une piste de 6 mois. Il va avoir très probablement, et on va pas lui en vouloir parce qu'il a montré qu'il aimait le club, et je pense que pour lui aussi il est temps de franchir un autre palier, le départ de Flotovin. Tu vas avoir la question qui va se poser pour Payet, pour Mandanda, pour Rami. Oui. Et ça va être un été qu'il va falloir très bien gérer et va falloir arrêter de se tromper, hein.
Oui. Bah, je suis d'accord.
Mais il y a un gros chantier, ça c'est sûr.
Ah, il est énorme. Ouais. Et alors que, moi je vous rappelle juste une chose, c'est que Rudy Garcia, quand il prend la tête de l'Olympique de Marseille, qu'est-ce qu'il dit lors de sa première conférence de presse? L'effectif a été bâti en dépit du bon sens. Regardons la construction de l'effectif actuel, la structure de l'effectif actuel. Je vois pas beaucoup plus de cohérence par rapport à avant.
Et bien sûr. Et après, je suis d'accord avec toi, Jonathan, et c'est toujours des analyses extrêmement pertinentes. Hein.
Mais le groupe a été formé, l'épine dorsale du groupe a été formé autour de trop de trentenaires.
C'est ça.
Et quand déjà ton projet, ton premier joueur, c'est de reprendre Dimitri Payet, qui est qui était trentenaire déjà, quand ils le reprennent ou pas, je sais plus.
Je crois qu'il a 29.
Non, il a plus que ça.
Il a quel âge?
Bon, aux alentours de 30 ans et que tu payes.
Il a 31 ans. Ouais.
Tu l'as payé combien?
En 30. 27 ou 30.
Pas plus que ça.
Non. C'était entre 27 et 30.
Ben déjà. Ton projet, il est un peu,
c'est un mauvais choix.
Tu pars pas du bon pied déjà.
C'est un joueur qui est exquis, délicieux quand il est vraiment en forme, mais tu sais très bien qu'il va avoir des gros trous d'air dans la saison et tu peux pas vraiment compter sur lui comme
tu te retrouves là avec
la petite friandise en plus.
Non, mais avec la défaillance de tes trentenaires, tu te retrouves aujourd'hui à recréer un effectif. C'est-à-dire que tu aurais pu réinjecter tout doucement avec le mercato d'hiver, tout doucement en gardant quelques cadres, mais en injectant des jeunes joueurs, des joueurs plus jeunes, il y en a dans le championnat français ou ailleurs.
Ils l'ont fait avec Morgan Sanson, par exemple.
Non, mais attendez, ils ont voulu le faire l'été dernier, surtout. C'est-à-dire là, c'est le mercato.
Tchaletat Tsar.
Voilà, enfin, Radonjić, etc. C'est déjà joueurs.
Ils l'ont fait, regardez. Tchaletat Tsar, Sanson, Radonjić. Qui d'autre ils ont pris de jeunes? Valère Germain, quand ils le prennent, il est pas bien âgé non plus, tu vois. Jordan Amavi aussi, c'est un joueur qu'on peut considérer comme jeune. Mais le problème, c'est que là, quand tu regardes l'effectif, il y a encore des trous. Le poste, la doublure de latéral gauche n'a jamais trouvé de solution. Au milieu de terrain, bon, heureusement que le petit Maxime Lopez, il fait le boulot. Tu vas te reposer la question de l'avant-centre à la fin de la saison prochaine, à l'inter-saison prochaine, c'est compliqué.
Sachant que si tu veux le garder, va falloir construire une autre équipe parce que si tu perds Dimitri Payet, si tu perds Flotovin, Balotelli. Mais il va falloir
on sait que c'est une pige, hein. Parce que là, quand tu regardes l'été prochain, va falloir un gardien, un numéro 9, un créateur, et, un autre latéral gauche, et au moins 2 joueurs de complément. Faut au moins 6 joueurs pour l'année prochaine.
Balotelli, C'est pour ça que j'ai dit un neuf.
Donc t'as besoin d'au moins 4 joueurs potentiellement titulaires, et 2 très bons joueurs en plus. C'est compliqué, les gars.
Sachant que tu n'as pas, le portefeuille que peuvent avoir certains.
Et l'attractivité de la Ligue des Champions qui est incertaine.
Il faudra forcément que tu fasses des choix en termes d'effectifs. Et tes choix, tes valeurs marchandes, aujourd'hui, tes jeunes, faut les garder. Bon, il y a Flotovin. Dimitri Payet, t'auras peut-être une offre de Chine, où il partira peut-être pour 10 millions ou quelque chose comme ça.
10 millions, t'imagines, en deux ans, t'as perdu,
c'est le jeu, ma pauvre.
Il faut se renflouer sur Flotovin.
Renaud, tu voulais intervenir? Voilà.
Oui, non, mais je souscris totalement à ce qui est dit là collectivement par toute l'équipe. Mais je reviens sur ce que disait très justement le camarade Jonathan, c'est que il y a, comme il le dit très justement, il n'y a pas de ligne directrice. Et donc moi je finis par me demander ce que veut McCourt. Voilà, et c'est ça qui paraît être l'interrogation principale.
T'as totalement raison.
Parce que là on est un petit peu dans le flou. Quand il est arrivé, voilà, il nous a fait part de son intérêt, dans le bon sens du terme, pour le football européen, le football français, et puis pour l'Olympique de Marseille, qui est quand même un grand club, et aussi une grosse marque, hein, on a tous
totalement, ouais.
Mais là, pour le moment, je sais pas trop où est-ce qu'on va.
Faudra faire le bilan du travail de Jacques-Henri Hérault.
Luis Gustavo, il faut absolument le garder, ce joueur.
Ah bah oui, oui.
Tu peux capitaliser sur l'image
d'ailleurs,
du club par rapport
sur
au
le hashtag RMC Live, c'est la remarque qui vient très souvent. Hein. C'est-à-dire, tout le monde cite Luis Gustavo.
L'élégance, le charisme.
On verra.
Et puis la qualité.
Merci Rolo d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, les drôles de dames vont nous rejoindre. Et elles viennent toutes avec une grosse affiche. Parce que demain, vous aurez l'embarras du choix. Vous allez sur le groupe Facebook de l'After et vous choisissez les deux matchs que vous voulez voir demain après-midi. Il y a du très lourd, il y a Gladbach Bayern, il y a Tottenham Arsenal, il y a Lazio Roma, Real Barça et même FC Porto Benfica. Tout sera
direct.
Très très chaud. La fleur revient dans quelques instants.
Lazio Roma direct.
RMC Football Show, l'After Foot.